Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy.
Hey, bonjour Mario, comment vas-tu?
Très bien Guy. Écoute, on est à un peu plus que la mi-juin, donc on enregistre ce podcast le 21 juin, donc dans quelques jours, ce sera le solstice d'été.
Et, c'est pas à partir de cette date-là que les journées commencent à raccourcir?
Oui, tout à fait.
OK.
Mais il faut profiter justement pendant qu'on va avoir les journées les plus longues de l'année, donc soyons dans le moment présent et profitons-en.
OK.
Oui. En se rappelant que en décembre dernier, ben, les journées étaient très courtes, il faisait noir tôt, on était en plein milieu de la COVID, on est presque sorti de la COVID, donc les gens revivent, hein, on sent l'énergie positive ces jours-ci. Sans parler pour les amateurs du Canadien de Montréal que l'équipe va bien, ils sont en demi-finale, on va voir jusqu'où ils vont se rendre. Lorsqu'on va publier ce podcast-là, probablement que nos auditeurs sauront déjà la réponse. Donc, ils sauront si j'ai un grand sourire ou si je fais juste dire « Ah, bien, ça sera pour une prochaine fois. » Et pour les amateurs de foot, l'Euro, en tout cas, c'est fabuleux. Il y a plein de...
Écoute, c'est fou, là. Moi, je suis plus foot que hockey, là. Puis, il y a l'Euro, puis là, il y a aussi la Copa América, là, en même temps, là. Fait que c'est... On ne sait plus où donner les yeux de la tête.
C'est parfait. Faut profiter de l'abondance quand elle est là. Aujourd'hui, ben avant de parler avec notre invité, Guy, là j'imagine que t'as publié là, ta formation en ligne.
Oui, donc ma première formation là en mode self-paced là en vidéo en ligne est présentement disponible. Donc c'est Docker, les fondements de Docker et de Kubernetes et l'utilisation sur la plateforme Azure. Donc, c'est une formation là qui il y a une douzaine d'heures de vidéos, 86 présentations, 68 labs, donc c'est pas mal complet. En fait, c'est ma formation de 3 jours là, que j'ai adaptée là, en format self-paced, puis il y a pas mal moins cher aussi. Là, donc, tout le monde peut se le permettre. Donc, c'est disponible présentement, puis pour les auditeurs du Visual Studio Talk Show, si vous utilisez le code au moment du checkout, le code...
Oh, un code rabais!
Oui, un code rabais! Oui. de 10$, vous utilisez VSTS pour Visual Studio Talk Show, donc VSTS. Puis ça va, vous allez économiser un gros 10$ à l'achat de la formation.
Ben 10$, ça dépend sur ta formation, le prix de... Parce qu'une formation, habituellement, là, 3 jours, là, ça peut être dans les centaines de dollars aisément là, quand c'est une formation en personne.
Ben,
là,
en personne, moi, c'est 1500.
Tu vois? Donc là, en ligne comme ça, tu vends ton cours à quel prix?
99 US.
Ah, donc une centaine de dollars canadiens. Donc, c'est quand même un bon rabais, c'est 10%. Voilà.
Oui.
Tout à fait. Ah, bon, en tout cas, on va inviter nos auditeurs à se procurer la formation. S'ils s'intéressent à tout ce qui est les conteneurs, Docker et Kubernetes, forcément.
Et Cloud Native, le sujet d'aujourd'hui qu'on va discuter avec Amida.
Oui. Ben, premièrement, Guy, finalement, nous avons une femme comme invitée au podcast. Bonjour, Amida.
Bonjour, Guy. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Désolé de faire, tu sais, je veux pas faire mettre l'emphase le fait que il y a peu de femmes dans le domaine informatique, mais on est heureux nous de donner la parole à la gente féminine.
Oui, puis on est très conscient que durant les dernières années là, on a eu surtout des gars. Ouais. Écoutez, j'ai fait un appel il y a peut-être 2 mois sur LinkedIn, dans tous mes réseaux sociaux là, à la recherche de dames pour participer au Visual Studio Talk Show, puis j'avais pas eu beaucoup d'intérêt. Alors on change la donne aujourd'hui. Merci Amida.
Merci.
Beaucoup de pression sur tes épaules.
Amida, nous, on a entendu parler de toi, ben, par la communauté Azure Québec. Je pense que c'est comme ça que Guy t'a été mis en contact, ou c'est Amida directement qui t'a contacté. Je me souviens plus comment ça s'est fait finalement.
C'est via nos amis de la communauté Azure et .NET à Québec, oui, effectivement. Mm-hmm.
Parce que tu demeures dans la région de la belle ville de Québec.
Oui.
T'es né en Tunisie, donc t'as immigré au Québec, là, quelque part dans ton parcours, j'imagine.
Exactement. Oui, c'est ça, exactement ça, oui. Donc, je suis au Québec, donc je suis dans la ville de Québec. Donc, la province, pas la province, donc la ville de Québec. Et je suis là depuis le 28 mars 2018, donc 3 ans et quelques mois, on va dire.
Ah bon, mais puis là, bien, ouais. Ça veut dire que bientôt, ou si c'est déjà fait, tu vas pouvoir avoir ta citoyenneté canadienne, j'imagine.
Bon, je viens d'avoir la résidence, plutôt parce que j'étais donc un travailleur qualifié, donc dans le programme de travailleur qualifié, c'est ça. Mm-hmm. Donc, et je viens d'avoir la résidence, bon, on va dire 2 ans encore plutôt pour avoir la citoyenneté, peut-être, oui.
Juste, pendant que tu parles de ça, il y a quelques années, on avait fait un podcast spécial avec quelques personnes qui, comme toi, avaient émigré au Québec pour parler justement de c'était quoi que le vécu, mais ça date de peut-être 4 ans, 5 ans, Guy, je sais pas.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui seraient encore valides. Si jamais on a des auditeurs qui sont un peu dans le parcours dans lequel tu étais il y a 3 ans ou 4 ans quand vous commencez à réfléchir à immigrer vers l'Amérique, ben ça peut être intéressant d'aller réécouter ce podcast-là. Donc, tu fais ça au Québec en 2018, mais tu n'as pas commencé à faire l'informatique quand tu es arrivé au Québec parce que tu as utilisé le statut là, d'immigrant. Comment t'as appelé ça, ce statut-là?
C'est un travailleur qualifié. Donc, c'est dans un programme de travailleur qualifié. Donc, c'est un permis de travail, ce qu'on appelle ici. Mm-hmm. Donc, travailleur qualifié en informatique, bien sûr. C'est un programme, c'est pour les experts en informatique, des expérimentés. C'est mm-hmm. ça.
Donc, avant d'être au Québec, est-ce que tu étais en Tunisie directement ou tu avais passé par d'autres pays en Europe?
Non, j'étais en Tunisie, mais quand j'étais en Tunisie, je travaillais dans 2 entreprises françaises. Et je fais des missions entre France et aussi Suède. Donc, j'ai fait un peu tour un peu en Europe à ce moment-là. Mm-hmm. Peut-être à ma dernière visite, c'était au Suède, donc m'a fait penser à changer de pays, c'est ça.
Ben, tu sais
ça ressemble, ici surtout, ça ressemble beaucoup, donc c'est calme, comme la ville de Québec. Donc, voilà.
Oui, il y a des parallèles à faire entre vivre au Québec et vivre en Suède.
Ouais.
Même au niveau, pas juste la température, mais culturellement.
Culturel, oui, exactement, oui. Donc, les gens sont gentils, en tout cas, ça ressemble beaucoup. C'est froid aussi, pas comme ici, mais là-bas, c'est froid presque toute l'année. Même bon, ici, au moins, donc, on a les canicules, on a vraiment un bon été. Mais oui, là-bas, si ça ne dépasse pas trop.
On a les extrêmes. Hein.
Oui, c'est ça. J'ai jamais pensé que. À moins 30, je sais pas, moins 18, on peut avoir 30 ou plus. Donc, c'est vraiment extrême. Ouais.
Mm-hmm. Sauf qu'il peut faire froid l'hiver, mais c'est sec. Donc,
c'est sec, oui.
C'est toujours un froid supportable, contrairement à. Mais par contre, l'été, quand il fait chaud, et ça peut être humide, ça peut être.
C'est insupportable.
Oui, c'est ça.
Ben, juste. Tu sais, je disais dernièrement qu'à Montréal, pour Québec, c'est peut-être un peu quelques jours de moins, mais présentement, on est rendu à une moyenne de 10 jours de ce qu'on appelle la canicule, c'est-à-dire température de 30 degrés et plus, avec les effets d'humidité. Souvent, c'est comme si on vivait à 40 degrés. En tout cas, c'est comme Guy dit, c'est insupportable. Et j'étais surpris, pas tant que ça, parce qu'on sait qu'on est qu'on a un réchauffement de la planète, mais les prévisions sont qu'en 2030, on sera rendu à 40 jours par été à Montréal de canicule.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, ce qui veut dire qu'on va vivre de plus en plus sous avec l'air climatisé.
Le climat, oui, on n'a pas le choix.
Donc, Amida, tu arrives au Québec en 2018. Tu travailles présentement pour le gouvernement du Québec. Donc, un endroit où un gouvernement qui est très, très... En
tout cas, un gros ministère.
Oui, qui génère des revenus, qui s'appelle Revenu Québec. Absolument, c'est intéressant quand on travaille au gouvernement dans un endroit où ça génère des revenus. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. On n'est pas comme dans un ministère pauvre où est-ce qu'on voit juste les choses comme étant des dépenses. Et ça fait combien de temps que tu es avec Revenu Québec?
Au début, j'étais une consultante à Revenu Québec, puis j'ai intégré Revenu Québec le 1er juillet, donc 2019. Oui, bientôt, en tout cas, 2 ans.
Ah oui, ça va vite.
Oui, c'est ça.
Mais puis bon, donc ça c'est ton parcours plus au jour le jour, mais tu as quand même un parcours intéressant parce que bon, tu as une formation comme formatrice, t'as donné de la formation avec le Microsoft Certified Trainer qu'on appelle là, et tu étais impliqué avec la .NET Foundation. Donc t'as pas juste un parcours de je fais de l'informatique à Québec, t'as un parcours quasiment
international.
Plus
oui, c'est ça. Donc, je fais des conférences avec Microsoft, avec même les autres, on va dire, les autres groupes, Meetup. Donc, j'essaie d'être à l'échelle internationale, pas seulement Canada ou aux États-Unis, mais aussi en France, en Italie. Je vais avoir donc déjà une conférence bientôt, donc dans Azure Ram, et en Allemagne. Donc, j'essaie d'être partout, pour être connue, donc partager. Je fais des conférences en anglais et en français. Je maîtrise les deux langues. Et si je fais aussi donc des conférences souvent pour la Tunisie parce que en 2017 décembre 2017 j'ai eu mon titre de Microsoft de MVP en Developer Technology en Tunisie. J'étais la première et la seule en Tunisie, puis 3-4 mois donc j'ai intégré ici Québec et je fais partie donc de la communauté du Québec, mais j'ai pas lâché quand même la communauté en Tunisie. Donc je fais souvent ça en arabe, des conférences au dialecte tunisien, on va dire, aussi, parce que c'est pas vraiment de l'arabe, c'est mélange français, donc un peu d'arabe, etc.
Mais pour nous, les Nord-Américains, on pense souvent que la culture arabe est uniforme, puis moi, ça a été une grande découverte à un moment donné quand j'avais compris que je travaillais dans une entreprise où est-ce qu'il y avait des gens qui étaient du Liban, des Marocains, en tout cas, puis donc tout un peu autour de la Méditerranée, mais à un moment donné, j'ai comme compris que ils ont leur dialecte, ou en tout cas ils réussissent à se comprendre entre eux, mais il y a quand même des différences.
C'est difficile de se comprendre souvent, surtout pour le nord d'Afrique, donc où les Maghrébins, donc, Maroc, Algérie, Tunisie, le reste, donc, Libye, tout ça, donc on se comprend un peu. Sinon, on parle en français. Mais sinon, pour le reste des pays arabes, c'est un peu compliqué pour eux, pour nous comprendre. Parce que, comme j'ai expliqué, on utilise un peu des mots français. Et d'autres pays, c'est en anglais plutôt que le français. Donc, on ne se comprend pas trop. Mais donc, on parle arabe ou anglais, peut-être. C'est bon. Pour se comprendre.
On n'a pas besoin d'aller bien, bien loin. Hein? On a beaucoup de nos auditeurs européens, français, qui souvent trouvent notre accent...
Rigolo.
Quand j'ai certains mots que je peux utiliser, ils doivent se dire de qu'est-ce qu'il dit, là, lui? C'est quoi ça?
Qu'est-ce qu'il dit, le malamute?
Oui, il parle avec des vieux mots du 18e siècle.
Mais le sud de France parle presque le même dialecte ici.
Oui.
Au Toulouse, surtout au niveau de Toulouse. Donc, Toulouse, c'est presque le même accent.
Ouais. Puis la même joie de vivre aussi. Donc, 3 années, tu as ton statut d'MVP, tu es impliqué dans la communauté, pas juste de Québec, mais aussi en Europe, dans ton pays, en Tunisie. Et aujourd'hui, tu veux discuter avec nous de technologie cloud native. Donc là, j'ai sûrement des auditeurs qui sourcent un peu cloud native. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, commençons peut-être par qualifier ou définir qu'est-ce que tu entends par technologie cloud native.
Je vais juste expliquer pourquoi on parle de ce sujet vraiment. Parce que là, tout le monde actuellement, même le gouvernement est en train de migrer vers, on parle ici info nuagique au cloud, donc les deux mots qu'on utilise au Québec. Donc vers le cloud donc native, que ce soit native, que ce soit public, privé ou hybride, quel que soit. Donc, et là, on commence à comprendre que les solutions qu'on a, tout ce qui est monolithique ou peut-être les vieilles technologies, on doit vraiment trouver une solution pour les optimiser. Et pour le futur projet, on doit commencer à apprendre des nouvelles notions, des nouvelles technologies pour dédier au cloud native. Donc, c'est une application native est entièrement développé et accessible dans le cloud. Donc, il y a pas mal de critères. Comme j'ai expliqué, dans le cloud public, privé ou hybride, donc c'est le même concept pour toutes ces applications. Donc, elles reposent sur ce qu'on appelle PaaS ou Platform as a Service. On trouve ça chez le fournisseur, comme Azure, par exemple. qui permet donc de trouver des données, des informations sur plusieurs supports. Maintenant, on utilise les smartphones, les tablettes, l'ordinateur de bureau et tout, donc toutes les applications qui seront hébergées chez un fournisseur, chez un fournisseur doit être accessible sur n'importe quel support.
Puis
Mais
c'est important de comprendre qu'on parle de plateforme as a service, pas infrastructure as a service, mais bien plateforme,
plateforme,
ce qui est une offre que, bon, Azure, Microsoft offre. Je
ouais.
pense, est-ce que je me trompe, puis Guy, tu pourras me corriger parce que, mais je crois qu'il y a juste Google qui offre aussi une plateforme parce qu'Amazon sont encore avec infrastructure, ils ont
Non, non,
commencé.
non, non, non. Tous
Non.
les grands
Tous.
providers cloud là, ont des offres de services gérés. Comme par exemple Kubernetes, ils ont fait en mode géré là sur les trois grands, même les
Les
plus
trois.
petits, même DigitalOcean puis Linode, on peut créer des clusters Kubernetes en mode géré, en manage mode.
Oui, c'est ça, exactement. Pour Azure, par exemple, c'est AKS, Azure Kubernetes Service, par exemple. Donc, tous les fournisseurs, presque, ils offrent actuellement même des services, des SaaS. Donc, Service as a Service, on trouve pas mal de services
Puis là,
et des plateformes. Ouais.
ça amène une question. Est-ce qu'à ce moment-là, si on parle justement de technologie cloud native, est-ce que la technologie Kubernetes doit absolument être associée à ça ou c'est juste que c'est une technologie open source largement disponible, c'est pour ça que tout le monde l'adopte ou c'est parce que ça fait partie de l'équation?
Pour Kubernetes, on peut l'utiliser ou pas parce qu'on a pas mal de technologies qu'on peut utiliser. Donc, on peut utiliser les conteneurs sans les orchestrateurs. C'est pas forcément Kubernetes parce qu'il y en a d'autres. On peut utiliser même les services fabriques aussi si on parle. Donc, si on a vraiment une application large, donc distribuée et tout ça. Donc, c'est pas vraiment lié directement, mais elle est très connue, très utilisée comme tu as dit, donc c'est ça. C'est pour ça, quand on parle des Docker, des conteneurs, on associe les orchestrateurs, c'est vraiment Kubernetes le plus proche. C'est ce qu'on a comme service chez le fournisseur, déjà chez Azure et même chez Amazon et tout, et Google aussi.
Donc, Kubernetes n'est pas forcément dans le décor, il peut y avoir des technologies concurrentes.
Ouais.
Maintenant, mon autre question, est-ce que ça doit absolument rouler dans un conteneur? Est-ce que si ça ne roule pas dans un conteneur, on n'est pas en technologie cloud native ou encore là, ce n'est pas une obligation?
Si on parle du cloud native, je pense que ce sera mieux quand on roule les applications dans des conteneurs parce que c'est plus simple à gérer et plus simple surtout donc à mettre à jour, à faire la maintenance et tout ça. Donc souvent, si on parle du cloud native, on parle des microservices, mais c'est pas toujours les applications. C'est-à-dire, toutes les applications ne peuvent pas être faites en microservices, mais ça sera mieux quand on passe par les conteneurs. Quand on parle du cloud native, ça facilite tout.
Moi, j'avais derrière la tête quand je te posais cette question-là, Amida.
Oui.
Si je prends, Azure a aussi une offre où est-ce que les fameux App Services, où est-ce qu'on peut héberger une application web qui peut être déployée avec un conteneur, mais qui n'est pas forcément obligatoire de déployer un conteneur. Est-ce que tu considérais que ça, c'est une offre aussi cloud native ou on est tellement sur un vieux paradigme dans cette approche-là que c'est une offre que Azure offre, mais c'est pas l'objectif de ce que tu veux parler aujourd'hui.
Pour l'offre de App Service, on a donc l'App Service où on peut déployer une application directement sans passer par les conteneurs parce que on peut activer les conteneurs dans App Service. Aussi, donc c'est parmi les offres de Microsoft. Si on a une application très simple à gérer, donc on peut utiliser directement App Service. Et surtout, donc d'après mon expérience que j'ai vécue donc récemment et tout. C'est que si on a une application monolithique, qu'on veut vraiment migrer cette application avec un minimum de modifications et l'adapter au cloud, là on peut choisir l'offre de App Service.
Donc, ce qu'il appelle
Un chemin transitoire, on va dire un chemin transitoire. Ou
Ouais.
c'est une petite application vraiment, donc on ne veut pas compliquer tout en conteneur. C'est une petite application qu'on va d'utiliser, donc on n'a pas vraiment des interactions, on n'a pas plusieurs bases de données à gérer et tout. Dans ce cas-là, donc même dans l'app service, on a plusieurs offres. Donc on peut avoir l'offre donc avec tout le monde ou avoir donc des serveurs dédiés, tout ça.
Puis il y a aussi une offre qui devient de plus en plus populaire. Je ne sais pas si toi, tu la considères comme faisant partie des applications cloud native. Tout ce qui est les fameux sites web statiques, c'est-à-dire que on pré-marche tout et on fait en sorte qu'il n'y ait presque pas de traitement. Est-ce que ce que tu vas... J'oublie le terme exact pour nommer ce type de plateforme-là. Guy, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que ça...
Ben, des applications statiques, oui, des sites web
Statique,
statiques.
oui, c'est ça. Il y a l'offre, oui. Statique, oui, c'est des sites web statiques, oui.
Donc, ces sites statiques-là, est-ce que tu les considérais aussi comme faisant partie de technologies cloud natives?
Oui, aussi, oui. On doit considérer ça comme du cloud natif. Si on n'a pas de modification, on n'a pas derrière donc des bases de données ou tout. Donc, c'est déjà, il y a une offre pour, dans Azure pour les sites statiques aussi, donc Azure statique, Azure Web App Service statique.
Donc, si je t'entends bien, toi, tu entends par cloud native un large spectre de types d'applications. On peut aller d'applications très simples qui est comme un site web statique et jusqu'à des applications conteneurs qui sont
Distribué.
hébergées avec Kubernetes qui peuvent avoir beaucoup de complexité parce que c'est un ensemble de microservices. Donc, c'est tout ce large spectre-là que tu voudrais couvrir.
Et même le service fabrique aussi, oui. Oui, aussi.
Donc, ben. Juste à haut niveau, est-ce qu'il y a une différence entre Service Fabric et Kubernetes ou est-ce qu'il y a-t-il une raison pourquoi je devrais prendre Service Fabric ou c'est plus à propos de la technologie que je maîtrise quand on compare Service Fabric avec Kubernetes?
Bon, pour Kubernetes, c'est un orchestrateur. On a des conteneurs, c'est pour orchestrer les applications. Donc, on a plusieurs, on va dire, microservices à gérer. Donc, pour Service Fabric, c'est pour une application plus complexe. Il y a pas mal de solutions de Microsoft qui utilisent les Service Fabric. Donc, on a vraiment, et ça demande une gestion plus complexe d'une application, des performances, une grande haute disponibilité. Donc, toute une gestion différente. C'est un choix en tout cas. C'est un choix à faire au début par les architectes. Dépend de l'application qu'on va développer au
Okay,
début.
donc c'est un choix architectural là, au niveau
Exactement.
du comment tu vas bâtir ton application. Service Fabric, je vois surtout comme un runtime applicatif qui permet, comme par exemple, SQL Database sur Azure est construit sur Service Fabric. Et éventuellement, Microsoft a mis cette infrastructure-là disponible comme un service dans Azure. Mais présentement, là, la ligne directive de Microsoft, c'est si tu veux aller vers, si tu cherches à utiliser un orchestrateur, va plutôt du côté de Kubernetes.
C'est ça, parce que ça serait plus difficile de faire de l'orchestration avec Service Fabric. C'est pas construit pour ça. C'est plus pour construire pour des scénarios complexes où est-ce que là, on a besoin, oui, peut-être d'orchestration, mais surtout de capacité d'avoir comme Fabric le disent, donc de la capacité de fabriquer ou de construire ces services dynamiquement, si je comprends bien.
Ouais, exactement, oui, c'est ça, oui. Ouais. On a donc pour les services fabriques aussi, ça gère tout ce qui est service avec état. On a microservice avec état, sans état. Donc c'est une gestion plus complexe. Et c'est pas vraiment simple, surtout.
Oui, puis là, présentement, avec le runtime Dapper que Microsoft a lancé, ça vient comme un peu mêler les cartes. C'est comme si ce qui était disponible uniquement comme le monde des acteurs, de créer des acteurs en code, là, puis tout la gestion de ces acteurs qui ont un état, par exemple. C'est super facile à faire dans Service Fabric, puis c'était bon presque impossible ou complexe à faire dans le monde des conteneurs et Kubernetes. Là maintenant, avec le runtime ou le modèle d'application Dapper, on peut réussir à le faire sur Kubernetes. Donc ça vient comme un peu mêler les cartes.
Ouais, mais j'imagine pour Microsoft, c'est parce que il y a des clients qui se vestent, ben si je prends Azure Fabric, là, je suis vraiment attaché à Microsoft, tandis que si je reste avec une approche Kubernetes, puis Dapper, si un jour les prix de, mettons, d'Azure tripleraient ou deviendraient extravagants, je peux toujours tout sortir de dessus puis les envoyer ailleurs. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que je me trompe, Amida?
Oui, c'est ça, oui, c'est portable, plus portable. Pour Service Fabric, c'est spécifique à Microsoft, parce que même pour Amazon, donc je pense pas que c'est vraiment compatible. Ils ont le service mesh plutôt. Donc, puis nous, il y avait dans la, chez Microsoft le service mesh, puis il a été abandonné. Donc, ils ont gardé juste le service fabrique. Mais oui, c'est vrai. Donc, si on utilise donc AKS, ce sera plus simple si on veut aller chez un autre fournisseur. C'est portable.
Si on revient au début, tu nous as dit, écoute, c'est important de comprendre pourquoi on veut utiliser des technologies cloud. C'est essentiellement parce qu'on veut ne plus rouler chez soi des traitements, mais les rouler dans une infrastructure cloud parce que ça coûte beaucoup moins cher. On est facilement dans un ratio de 10 pour 1. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais héberger soi-même ses serveurs avec tous les coûts, c'est très dispendieux. On faisait souvent le parallèle au début des années 2000. Guy, je ne sais pas si tu te souviens, quand on faisait des présentations où est-ce qu'on essayait d'expliquer qu'est-ce qui était le cloud. Puis on disait, ben c'est un peu comme aujourd'hui, comme si chacun fabriquait eux-mêmes leur propre électricité, mais dans le futur, il va y avoir des grands fournisseurs d'électricité comme on est aujourd'hui au Québec, Hydro-Québec, en France, qui vont être capables de te vendre des kilowattheures à très, très bas prix. C'est un peu ce qu'on vit avec le cloud, c'est que maintenant, on est capable d'avoir du traitement à des coûts 10 fois ou même des fois 100 fois moins cher que ce que ça peut nous coûter de l'héberger soi-même. Donc, les grosses organisations comme le gouvernement cherchent aussi à migrer. C'est la raison première qui motive tout cela.
Oui, exactement, oui, c'est ça. Et pour les applications, donc maintenant on est en train de chercher la haute disponibilité, donc c'est ce qu'on trouve chez les fournisseurs. Et surtout donc pour le gouvernement quand pour Revenu Québec, donc surtout dans la période de déclaration des impôts, il y aura des pics d'activité. Ça sera mieux dans ce moment-là, par exemple si on est dans le cloud, donc on aura plus de serveurs, plus donc on est capable donc de comment on va dire, de mettre à jour nos serveurs et tout ça. Ça sera
Oui,
plus
donc.
simple. Et puis minimiser, donc c'est les coûts sont moins durant l'année, sauf dans période de déclaration d'impôts, surtout pour ne pas avoir des problèmes lors des pics d'activité. Aussi, donc il y a un autre point pour tout ce qui est application native qu'on n'a pas discuté, c'est au niveau de maintenant de la culture de DevOps qui permet donc la collaboration entre les développeurs des logiciels, surtout l'administrateur système, maintenant dans un monde agile, l'utilisation de tout ce qui est safe, les notions de safe, agile et tout ça. On commence à avoir plusieurs cultures de DevOps. Maintenant, on parle de donc continuous delivery. Bon, voilà, c'est ça. CI/CD, le déploiement continu, l'automatisation, donc tout ce qui est mise en production de différentes versions de l'application. Donc, ça facilite vraiment la gestion de produits. Donc, voilà, on n'a pas parlé de ce sujet aussi au niveau des apports pour développer une application cloud native et les mentions dont elle repose.
Donc, tu amènes deux arguments de plus très, 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 très forts. Oui, tout ce qui est agilité au niveau du déploiement, donc les CI/CD qui devient beaucoup plus simple quand on est sur le cloud. Et argument massue pour les organisations gouvernementales, c'est la gestion de la demande sans avoir besoin. Parce qu'historiquement, quand on avait, mettons, une journée dans l'année où il fallait satisfaire 1 million de clients, bien, il fallait avoir les équipements à l'année longue pour 1 million de clients, ce qui coûtait une fortune à garder en place pour l'utilisation d'une seule journée ou un seul mois. Tandis que là, toi, avec le cloud, c'est que tu vas payer à la demande quand tu en auras besoin, puis le reste de l'année, ben, tu ne paieras pas. Donc, le coût va être beaucoup moindre.
Exactement, oui, c'est ça. Donc, on est donc, durant l'année, donc on n'a pas ces pics. Pendant donc la déclaration d'impôt, donc les personnes qui travaillent sur les impôts donc n'auront pas des problèmes d'arrêt de service, peu importe. Donc, ça sera plus flexible. Donc, surtout que si on ajoute plus de nœuds, donc de processeurs, de mémoire et tout, c'est simple donc, au niveau de cloud plutôt que d'ajouter un serveur physique au niveau ou attendre donc, plusieurs jours. Ça facilite le service pour le citoyen après. Donc, le traitement sera rapide. Donc, et voilà, plus simple, c'est ça, pour le citoyen et pour le personnel du gouvernement.
Donc, on comprend bien pourquoi ça vaut la peine de migrer vers le cloud. Ma question pour toi, c'est sûr que quand on commence un nouveau projet, quelque chose à zéro, c'est facile de suite le penser en fonction du cloud, puis là, de prendre les meilleures pratiques, les meilleures façons de faire. C'est assez bien documenté là, par les fournisseurs de services, que ce soit Microsoft d'un côté ou Amazon. Mais la réalité, surtout dans les organisations comme une organisation gouvernementale, c'est que souvent, ce n'est pas une nouvelle application, c'est on veut migrer quelque chose qui existait déjà et on ne veut pas forcément tout réécrire d'un coup. Donc, qu'est-ce que tu as, tes expériences par rapport à ça ou qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
OK, donc je suis dans l'expérience parce qu'on travaille là-dessus depuis 2 ans, depuis le décret, l'arrivée du décret. Revenu Québec est comme tous les ministères donc au Québec, donc il y a toujours des solutions, vieilles solutions qu'on peut pas l'abandonner, donc c'est ça. Bon, il faut avoir, donc l'idée c'est de voir ce qu'on peut migrer. Donc si on a des nouvelles technologies, bon, il y a tout ce qui est .NET et tout ça, ou Java ou autre, des solutions. On va voir ce qui est migré, soit donc qu'on utilise le concept d'infrastructure en tant que service, ça sera toute l'infrastructure qui va partir, puis il y aura une planification, donc de une refonte ou des modifications, donc s'il y a des modifications ou une refonte si on ne peut pas modifier.
Donc,
Ouais.
ici, on parle d'une approche plus tactique quand on va en
Exactement.
effet. Parce
Ouais.
qu'il faut faire la différence entre tactique, peut des fois, c'est parce qu'on veut à très, très, très court terme être capable d'aller vers le
Oui.
cloud et avoir, mais stratégique, souvent, ça va vouloir dire une réécriture. Est-ce que je me trompe?
Exactement, une refonte. Donc stratégique, là, c'est on va définir qui pourra, qu'est-ce qu'on va refaire comme refonte. Et là, on va parler des applications natives et on commence la refonte progressivement en parallèle à la mise en fonction de l'autre solution. Donc c'est ça. C'est ça les stratégies actuelles qui...
Dans ton expérience, quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens peuvent faire quand ils démarrent une refonte, ou en tout cas qui l'enjeu qu'ils ne voient pas?
Pour une refonte, oui, ça demande, en tout cas, pour une refonte, ça demande de l'argent, bien sûr, en tout cas. C'est ça, on va dire. Donc, ça demande un investissement, donc une demande pour un investissement. Mais c'est argumenté parce que peut-être, donc, pour cette solution, donc, si le reste, il va migrer pour cette solution X, par exemple, sans donner des exemples, une solution X, après 2, 3 ans, on doit la changer, elle sera plus performante ou productive pour le reste. Là, on commence à faire donc des refonds progressifs. Donc c'est ça. On garde la solution en cours, soit on la garde on-premise, sur site, soit on essaie de migrer juste le serveur et on commence à faire des modifications ou une refonte petit à petit, et faire fonctionner les deux. Donc ça dépend comment
C'est
ça, on va
un
chercher.
super bon point que tu amènes, Amida. Dans le passé, on construisait une application, un gros système. Puis une fois qu'il était livré, là, c'était comme bon, ben on passe en mode maintenance, là, puis les changements sont minimes. Là, la mentalité est plutôt le système est constamment en évolution, si je comprends bien.
Ouais, en continuité, on dit, oui, c'est ça, en
En
évolution continue.
continuité, donc
Ouais.
c'est ça, là. On ajoute, on bonifie au niveau des fonctionnalités. On fait pas juste faire la maintenance pour corriger un bug ou quelque chose. Si par exemple une nouvelle technique ou un nouveau service par exemple qu'on peut utiliser dans le cloud pour améliorer le système, on va peut-être faire ces petites modifications, mais c'est constant, là, ces modifications-là.
Oui, c'est ça, oui, exactement ça, oui. J'ai vécu les deux, oui. J'ai vu deux solutions, une solution qui était en évolution, donc ajoute des fonctionnalités toujours, et une solution qui existe encore, mais donc il y a une autre en parallèle qui va remplacer, mais depuis 2 ans, 3 ans, c'est toujours en cours, c'est ça. Oui, parce que ça va remplacer on va dire 2 systèmes, donc 2 solutions ou 3. Donc, d'une autre façon, plus simple, et voilà, c'est plus simple, oui. Et cloud native aussi, c'est ça.
Mais si j'ai un système monolithique, là,
Ouais.
puis qui fonctionne, tout ça, c'est
Oui.
sûr que c'est pas cloud native, là, mais je voudrais le faire évoluer vers le cloud native. Est-ce qu'il existe des techniques pour y arriver?
Oui, monolithique, bon, oui, pour les monolithiques, oui, c'est... Mais on parle de microservices si on a vraiment plusieurs domaines. Mais nous, on a un seul domaine, donc c'est par exemple un domaine pour gérer, par exemple, les impôts, peu importe le sujet. Donc c'est mieux de faire une monolithique plutôt que microservices avec plusieurs bases de données. Donc c'est ça. Donc pour une application qui est monolithique, on peut évoluer ça. Donc surtout si on a plusieurs services. Donc, on peut faire des changements en tant que des API, par exemple. Si on a donc du WCL, donc on peut évoluer vers les gRPC par exemple, mais c'est le genre de modifications qu'on peut les apporter pour une application. Pour la partie, par exemple, graphique, donc si elle utilise des services, on peut la changer vers une nouvelle technologie, Angular, React.js, peu importe, donc sans impacter ce qui est back-end derrière et tout. C'est comme ça donc qu'on peut évoluer ces applications de cette façon.
Souvent, ce que j'ai vu, moi, c'est que quand on partait d'une architecture monolithique, la réseautique, on en tenait compte, mais c'était pas un gros enjeu parce que, supposons que ça avait des bases de données qui étaient hébergées sur une autre machine, ben, on s'assurait que les deux machines soient dans le même data center avec un gigabit de bande passante entre les deux au niveau du réseau. Et là, quand on amène ça dans le cloud, surtout si les architectes qui sont là sont un peu créatifs, ils disent « Ah, il faudrait tout séparer nos bases de données, on devrait toutes les envoyer dans leur propre endroit. » Et là, on voit pas tous les problèmes de latence et de performance qui vont devenir un désastre. Donc, il y a cette préoccupation-là qu'on doit tenir compte, c'est-à-dire que cloud veut aussi dire que le réseau va être encore plus omniprésent.
Oui, aussi, on recommande surtout quand on demande de migrer une application, donc migrable vers l'envoi nuagique, dans ce cas-là, il faut que les données soient plus proches pour ne pas avoir des problèmes de latence, surtout pour notre cas. Donc, il faut que l'application réponde rapidement, donc on aura plusieurs transactions aller-retour et tout. Et surtout si on a aussi des dépendances, des systèmes qui dépendent. Cette application dépend d'autres applications qui ne peuvent pas être migrables. On essaie de trouver une solution comment on peut gérer ça entre sur site, entre ce qui est sur site, vers le fournisseur Azure ou peu importe, donc Amazon ou autre. Donc c'est ça, mais la recommandation est que l'application soit proche de la base de données toujours, ou il faut voir comment on va gérer ces latences-là.
Donc ça, c'est comme un principe, les données, les traitements des données, on essaie qu'ils soient le plus
Proche.
proche possible.
Pour l'instant, oui. Oui, c'est ça la
Ouais.
recommandation, ouais.
Puis je te dirais que c'est intéressant aussi de faire analyse de nos dépendances parce que souvent, faut ramener nos dépendances proches aussi. Quelque chose aussi niaiseux comme, oh, on a un système d'autorisation qu'on a implanté il y a très longtemps, je sais pas moi, avec pas directement dans Active Directory, mais qu'on peut avoir implanté avec une technique dans une BD quelconque. Encore là, ce système d'autorisation-là, faut le ramener proche parce qu'il va devenir un bottleneck, comme on dit en anglais. Donc, je cherche le bon mot en français, un goulot d'étranglement. Donc, c'est faut se préoccuper de ces choses-là.
Oui, c'est ça. Donc sinon, on n'aura pas on n'aura pas les avantages de l'info logique en eux-mêmes, en tout cas. On n'aura pas des avantages qu'on cherche, qui est la haute disponibilité et la réponse rapide et tout ça.
Parce que la raison pourquoi, bon, outre le fait que souvent nos systèmes sont vieux et sont dus pour être renivelés, mais l'avantage qu'on cherche, c'est justement aller chercher notre haute disponibilité ou la capacité de pouvoir faire du déploiement beaucoup plus rapide, donc d'avoir plus d'agilité. Donc, ce type de, sans parler des coûts qui devraient être moindres. Donc, c'est ces avantages-là qu'on cherche, mais sans voir les inconvénients qui seraient de faire, de prendre, mettons, une architecture telle quelle, puis de la reproduire sans être conscient des enjeux. D'où pourquoi des organisations comme Revenu Québec ont besoin de gens comme toi qui comprennent les enjeux, qui sont capables de dire, oups, attention, là, il y a risque ici, là.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et surtout assurer la sécurité aussi. Donc la sécurité, parce que si on sort donc de ce qu'on a dans le serveur, il faut assurer plus de sécurité à l'extérieur. On entend toujours voir, on entend dans les radios et on voit surtout dans les journaux. Donc il y a eu des fuites partout. Donc c'est plus sensible de côté du gouvernement en général.
Oui, parce que de votre côté, Revenu Québec, là, ça gère nos rapports d'impôts, les taxes, etc., etc. Donc, c'est des données ultra
Exactement.
sensibles, là. Donc, on aurait pensé que, bon, il y a 10 ans, là, j'aurais dit, jamais Revenu Québec ira dans le cloud. C'est impossible. Ils veulent tout garder, là, près d'eux, dans leur centre de données. Mais là, non, c'est pas ça qui se passe. On s'en va vers le cloud. Mais on doit construire, j'imagine, une infrastructure et une sécurité qui est à toute épreuve.
Exactement, oui, c'est ça. La sécurité, oui, c'est ça, c'est l'enjeu, donc c'est l'enjeu. Mais vraiment, donc c'est le premier, on va dire, donc le premier facteur qui dans tout le monde, bon, comment j'expliquer, mais la sécurité est la chose la plus importante, plus que même de latence et plus que des technologies qui existent et tout, parce que c'est plus critique, je pense, c'est le plus critique dans tous les gouvernements.
Parce que la réalité est que il y a des fins finaux à travers la planète qui se sont rendus compte que c'est une façon assez facile de faire de l'argent. C'est-à-dire, tu prends possession d'un système qui est névralgique, tu demandes une rançon, tu as fait payer en Bitcoin pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. Et tu peux même faire ça en restant dans ton pays, en tout cas en restant complètement à l'extérieur de l'Amérique du Nord, par exemple. Donc, faut se protéger contre ce genre d'attaque-là.
Ouais, mais je te dirais que c'est plus l'aspect humain ici, là. Tu fais juste mettre une page qui imite la page de login de tel ou tel fournisseur, puis tu viens de récolter des noms d'usagers, mots de passe. Ça, c'est plus un aspect humain ici qu'il faut gérer, mais quand même, il
Exactement.
faut s'arranger que pour si ça arrive, là, notre système puisse survivre à ce genre d'attaque.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça.
Sécurité, enjeu numéro un. Ensuite, c'est sûr que le réseau, en tout cas les enjeux de réseau, c'est un autre enjeu qu'on peut difficilement minimiser. Est-ce qu'un autre enjeu, quand on veut utiliser des technologies cloud, est-ce que tu aimerais aborder avec nous?
Aussi, donc, si on va utiliser des technologies cloud natives, donc on a les conteneurs comme Docker, on a Kubernetes, on a Service Fabric, on a pas mal de technologies, donc, et là, donc, en interne, il faut travailler sur le montée de compétences des personnes qui vont travailler sur ces projets-là aussi. Donc, c'est un autre enjeu, donc, à étudier aussi après, pour pouvoir développer, donc, du cloud, donc, des applications via les technologies cloud natives.
C'est ça, parce que c'est pas juste de dire, ah, j'amène dans un Docker
Ah ouais.
mon code et c'est fini, parce que là, ça
Non,
prend
c'est
des
pas ça.
orchestrateurs. En tout cas, ça te prend un paquet de savoir-faire.
Oui.
Et la réalité est que, un peu comme les gens utilisaient beaucoup les formules dans la dernière année en disant, mais quand on parlait de la pandémie, ah, on construit l'avion en vol. Mais la réalité, c'est qu'en informatique, on fait ça depuis toujours. On construit l'avion en vol. C'est-à-dire que Kubernetes, dans les 3 dernières années, a changé, a évolué. Kubernetes aujourd'hui ne ressemble pas du tout à Kubernetes il y a 3 ans. Hein?
Oui, ça évolue, oui, c'est ça.
Ça prend des gens compétents sur le terrain, mais qui vont aussi se tenir à jour, puis continuer à faire évoluer. Parce que la raison pourquoi ce n'est pas le même code, c'est parce que bon, il y a des problèmes qu'on a cherché à résoudre, parce qu'on les résolvait pas correctement. Mais aussi des évolutions qui sont juste que ces plateformes-là aussi doivent se sécuriser, donc doivent se protéger contre les attaques possibles. Donc, ils n'ont pas le choix, ils ont aussi de faire des mises à jour.
Donc, Amida, tout à l'heure, tu parlais de containeriser nos applications, notre code. Quels sont les défis que tu as rencontrés lorsque tu changes l'architecture de ton application, justement, pour utiliser des conteneurs Docker?
Pour les conteneurs, donc le premier défi, c'est savoir comment on peut décomposer notre application en microservices. La première question à poser, c'est que est-ce que je vais mettre ça dans un seul conteneur ou plusieurs conteneurs? Donc ça diffère dans ce cas-là. Donc la gestion aussi des conteneurs, si on a plusieurs, n'est pas aussi simple. Hein. La maintenance n'est pas toujours très simple. Donc le défi vient à ce niveau-là. Il faut vraiment maîtriser les notions de base de tout ce qui est conteneur pour pouvoir décider. Et surtout les environnements qu'on va les utiliser. Donc c'est un défi, oui, les clusters, cloud, donc surtout les notions de services de serverless d'une façon générale aussi. Il faut aussi, donc un autre défi, c'est qu'il faut donc maîtriser le stack technologique des conteneurs dans ce cas-là. Donc là, il faut avoir des connaissances, vraiment pas de base, mais vraiment plus approfondies pour pouvoir décider sur la façon comment on peut déployer tout dans des conteneurs un ou plus. Et aussi, donc il y a un autre volet qui est la sécurité des conteneurs. C'est pas vraiment simple. Il faut savoir comment on peut sécuriser les infrastructures conteneurisées ou les conteneurs, les nœuds qu'on a dans les conteneurs et tout ça. Et par la suite, on a la notion des orchestrateurs. Il faut choisir un orchestrateur comme Kubernetes, par exemple, Il faut maîtriser comment on peut l'utiliser comme AKS aussi, comment on peut l'utiliser, même si ça, il offre toute l'infrastructure qui est prête et tout. Mais on doit maîtriser les notions des orchestrateurs de Kubernetes.
Donc, pour un développeur, là, c'est plus complexe que de juste prendre une classe, de la sortir, de l'extraire du projet, la mettre dans son, de créer un nouveau projet, puis de compiler une DLL, puis de déployer ça dans un conteneur. Là, c'est parce que là, on va se retrouver avec une série de petits conteneurs comme ça qui vont devoir se parler, communiquer. On va devoir les sécuriser. Donc, c'est plus complexe que seulement containeriser notre code.
Oui, c'est pas plus simple. Oui, exactement ça. C'est maintenant le rôle du développeur a évolué. Donc, c'est pas juste créer des classes, développer en utilisant une technologie avancée comme .NET Core pour actuellement ce qu'on peut utiliser donc pour déployer dans plusieurs plateformes, Windows, Linux ou autre et tout ça. Mais actuellement, il faut comprendre la notion de containerisation, des microservices. Derrière, on a aussi des services de base de données aussi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Une seule base de données, plusieurs. Ça dépend. Donc, tout est une conception. Donc, il doit maîtriser tout ça. Oui. On a pas mal de technologies à voir, mais à maîtriser. Donc, si on va choisir les microservices, les conteneurs et tout, sans avoir des connaissances, vraiment, c'est juste, c'est l'amende, on veut utiliser ça parce que c'est ce qu'ils disent dans les documentations, dans les forums et tout ça, mais c'est pas juste ça. Bon, il faut voir les avantages et c'est vraiment est-ce que ce qu'on veut ou pas. Donc on peut aller à service tout simplement sans passer par les conteneurs ou utiliser directement le conteneur parce que l'application nécessite cette plateforme de conteneurisation. Donc aussi Docker ou pas, donc ça dépend aussi.
Ouais, puis même on peut combiner ces différents services-là. Si on a un plus petit workload, on peut le rouler en conteneur sous App Service, puis communiquer, sécuriser la communication, tout ça. Puis éventuellement, bon, si ce petit workload-là devient grand, ben on l'extrait, puis on utilise un orchestrateur comme Kubernetes. Donc, c'est un des avantages d'utilisation des conteneurs, c'est qu'on peut le rouler sur plusieurs types de services.
Exactement. Oui, exactement ça. En tout cas, la transition vers le conteneur offre de nouveaux chantiers pour tout le monde, que ce soit dans la collaboration, maîtrise de connaissances, tout ça, donc soit l'automatisation même au niveau l'utilisation des API Docker pour automatiser les tâches de création, production, paramétrage, que ce soit même au niveau de l'intégration continue, tout ce qu'on a parlé de DevOps. Donc, il faut avoir plusieurs connaissances par rapport à ça.
Le spectre de ce qu'il faut connaître s'est élargi. C'est avant, ouais. Les gens, c'est comme, je sais programmer en C# ou je sais programmer en Java. Ouais. Bon, c'est encore important de connaître ces langages-là, oui. Si on veut être capable de construire notre code. Mais tout l'outillage, en tout cas, tout ce qui va chercher à, qui va être en place pour déployer, c'est-à-dire, faut que tu maîtrises tout ce qui est Docker. Donc, pour nos auditeurs qui n'ont pas commencé, là, préparez-vous, là. Faut maîtriser ça, Docker, là. Les conteneurs, faut comprendre ce qu'il y en est. Dans un deuxième temps, après ça, c'est comment on sécurise comme il faut tout ce qui est autour des conteneurs. Le monde des orchestrateurs avec Kubernetes, c'est un autre domaine qu'il faut, en tout cas à court terme, peut-être pas maîtriser à fond, mais un jour ou l'autre, parce que comme Guy disait, t'es pas obligé forcément d'aller avec un orchestrateur si t'as pas une grosse charge. Tu peux aller avec l'offre de Azure App Services, puis ça peut faire la job, parce qu'on a... C'est sûr que des organisations comme Revenu Québec, vous avez de la charge. Vous avez des millions de personnes à un moment donné, mais si t'es juste dans une petite organisation où est-ce que au maximum, tu vas avoir 100, 200, 300 utilisateurs, t'as peut-être pas besoin de mettre en place un gros orchestrateur avec toute la
problématique. Dans ma formation, moi, je dis, je vous montre une série d'outils que vous allez mettre dans votre boîte à outils. Puis vous avez un petit marteau, puis vous avez un gros marteau, puis là, il faut choisir. Puis là, il y a peut-être aussi un moyen marteau aussi, en hein, quelque part là-dedans. Là. C'est, donc là, faut vraiment étudier, puis analyser c'est quoi les besoins, c'est quoi qu'est-ce qu'on veut atteindre, puis comment on veut faire évoluer. Puis là, on va choisir le bon marteau dans notre boîte à outils.
Exactement. Il n'y a pas une recette à suivre, en tout cas. C'est pas une recette à suivre, mais ça dépend des cas, de l'application, du nombre d'utilisateurs, du volet sécurité, des collaborateurs qui travaillent sur l'application. Donc, il y a pas mal de facteurs à prendre en considération avant de prendre la décision de choisir, peu importe, donc, que ce soit donc, les conteneurs avec les orchestrateurs, le service fabrique. Il y a aussi donc, les fonctions as a service, donc une offre d'Azure Function, par exemple. Donc, ça dépend, ça dépend. Donc, on a pas mal de solutions, on a pas mal de services, on va dire pas vraiment de solutions, pas mal de services, mais il faut bien choisir, tout simplement.
Oui, puis quand on va sur le site de la CNCF, la Cloud Native Foundation, puis on regarde la définition là, de Cloud Native, c'est quand même assez, je dirais pas que c'est vague, là, mais ça, c'est pas une liste de règles qui sont rigoureuses, là, que tu dois suivre, là, puis tu suis la recette, là, c'est A, B, C, D, et paf, t'as une application Cloud Native. Non, c'est plus un genre de minding, de mindset là, pour le développement ou l'architecture et la maintenance de nos applications dans le cloud.
Ouais, exactement. Donc, pour eux, c'est vraiment donc, les clouds, donc les technologies de cloud native permettent aux organisations de créer, exécuter des applications évolutives, donc on peut faire l'évolution, dans un environnement dynamique et moderne, donc sans donner des noms de technologies, tout ça. Donc c'est ça l'objectif donc, des applications évolutives et un des environnements dynamiques et modernes, tout simplement, qui peut être déployé dans du cloud privé, public, hybride, peu importe. Donc, c'est ça.
Parce que c'est sûr que nous, on parle souvent d'Azure comme étant, bon, c'est une offre publique, mais beaucoup d'organisations disent non, moi, je vais créer mon propre cloud. Puis encore là, ça peut être même ton propre cloud en utilisant tes services d'Azure parce que tu n'es pas obligé forcément de déployer toi-même toute ta technologie. Ou en allant vers des tiers parties. En tout cas, donc, être sur le cloud ne veut pas forcément dire un cloud public. C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
Ouais, exactement. Il y a d'autres fournisseurs aussi qui mettent en place, qui ont une offre déjà pour mettre en place une infrastructure similaire à ce qu'il y a dans le public, mais chez l'organisation, en privé. Donc, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a des organisations qui disent ben, que la meilleure façon de se protéger au niveau de la sécurité, c'est non ça privé à ce moment-là. Ouais. Ça sera même pas visible. Bon, en tout cas, les points d'entrée à travers l'Internet seront très bien connus et seront faciles à sécuriser.
Exactement, oui, c'est ça. Oui. Donc là, on sera en mode hybride, en tout cas là, en mode hybride. Il y a donc des solutions comme Azure Arc qui gère correctement, utilise Kubernetes aussi pour gérer donc l'infrastructure des deux, donc public et du privé ensemble.
Amida, ça fait le tour pas mal de tout ce qu'on voulait discuter. Guy, est-ce que toi, t'avais quelque chose d'autre que t'aurais voulu demander à Amida?
Bon, en fait, simplement, est-ce que t'as un site ou un endroit là, que tu suggérais à nos auditeurs qui voudraient s'intéresser au développement cloud native?
Il y a la documentation de Microsoft. Donc, il y a un document qui parle des technologies, donc des applications cloud native. Il y a les formations aussi en ligne dans Microsoft Learn où on peut suivre de même des certifications par rapport à ça. Vous pouvez aussi me suivre dans Medium, dans mon blog Medium. Donc, je poste souvent des nouvelles technologies, donc de partage d'expériences que j'ai vécues aussi.
OK, on va mettre les trois liens, nous, sur la page web.
Et puis, vous pouvez aussi acheter ma formation.
OK. Guy, tu fais de l'auto-promotion.
Mais en fait, je couvre tout ce qu'on vient de parler. Je trouve que c'est une conversation intéressante, Amida, parce que c'est exactement les points là que je couvre là, dans ma formation. Ouais. En fait, je touche au petit workload comme dans App Service, puis dans les gros workloads dans Kubernetes, puis j'ai introduit des concepts de cloud native. Donc, ça a été vraiment une excellente discussion aujourd'hui.
Mais sur ça, on va souhaiter, nous, bonne programmation à nos auditeurs. On va souhaiter de passer un bel été. On va publier cette émission-là au mois de juillet. Donc, on les revoit au mois d'août pour un autre podcast Visual Studio Talk Show. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Merci.